Ève Tessier-Bouchard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Entretien journalistique.
Merci de m'accueillir.
Merci d'avoir répondu à l'invitation. On se parle aujourd'hui parce que vous êtes l'éditrice des As de l'info. Et bon, un peu dans son corollaire, vous êtes aussi directrice des contenus jeunesse des coop de l'information. Ça fait peut-être beaucoup de choses sur une carte d'affaires, mais on va passer à travers tout ça ensemble. D'abord, qu'est-ce que c'est les As de l'info?
Les As de l'info, c'est un quotidien pour enfants, un média quotidien pour enfants. C'est le seul quotidien qui existe à notre connaissance au Canada francophone. Il y a d'autres médias qui s'adressent aux enfants pour vulgariser l'information et l'actualité, mais nous, on le fait quotidiennement avec deux, trois articles par jour qui expliquent aux enfants d'environ 8-12 ans, c'est notre cible. Ben, les manchettes et ce qu'ils doivent comprendre de ce qui se passe dans l'actualité.
Et donc, on parle, bon, c'est ça, il y a une déclinaison web. Vous êtes aussi en format papier, donc dans les coops de l'information. Vous êtes également publié dans Le Devoir, notamment. Moi, je reçois Le Devoir tous les jours, donc je consulte quand les contenus des heures d'info sont publiés. Moi, je me sens toujours un peu gêné de ne pas trouver les cinq différences, par exemple, dans les caricatures. Mais bon, c'est une section jeu, il faut expliquer peut-être aux gens qui connaissent moins ça. Effectivement, vous disiez, bon, c'est la seule déclinaison de ce genre de médias-là pour les enfants, bon, côté francophone au Canada, comment ça se fait qu'il n'y en avait pas déjà? Comment ça se fait qu'il y avait ce vide-là à combler, selon vous?
Ben, c'est ma réponse, ça va être un peu plate, puis ça va ressembler à ce qu'on répond pour à peu près tout ce qui concerne les contenus jeunesse. C'est que c'est moins payant. C'est que les parents ben, doivent payer aussi plein de choses. Alors, non seulement on peut pas vendre de publicité, parce que la loi au Québec nous l'interdit. La publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans est interdite. Mais les parents ont aussi beaucoup de choses à payer. Alors, avant d'être rendus dans le budget à devoir débourser pour payer l'abonnement quotidien pour son enfant, ben, il y a beaucoup de choses qui passent avant ça. Puis c'est très, très compréhensible. En même temps, en Europe, ils ont une culture vraiment de ça. Il y a des enfants qui reçoivent leur petit quotidien tous les jours par la poste. Et qui sont abonnés, ça dure depuis des décennies. Il y a toutes sortes de. Il y a une émission qui s'appelle Les News en Belgique qui est chaque jour depuis au moins une vingtaine d'années en Belgique à la télé. Alors ici, on a moins cette culture-là et ben c'est plus dur à financer aussi. Sauf que là, on arrive dans un moment où on se rend compte que les enfants. Ben, la population en général, mais les enfants ont besoin d'être éduqués aux médias, ont besoin aussi de comprendre le monde pour en être moins, ben, peut-être moins angoissés, hein? Quand on comprend quelque chose, ça nous angoisse moins. Fait qu'on est rendu comme à une croisée des chemins où même les gouvernements, et, les gens en général s'entendent pour dire qu'il est temps que les enfants comprennent ce qui se passe, aient des bases et puissent devenir, quand ils vont être grands, plus engagés comme citoyens.
Beaucoup de sujets dans beaucoup de sujets pour d'autres questions dans votre réponse. Des choses très, très, très intéressantes. Je veux simplement un peu commencer avec votre propre parcours parce que, bon, ça fait une trentaine d'années que vous êtes dans le monde des médias. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, à un moment donné, vous vous êtes dit, moi, j'ai envie de me lancer dans ce type d'aventure parce que ça ressemble pas vraiment à ce que vous avez fait précédemment, évidemment, là.
Ben, ça ressemble pas et un peu quand même, parce que j'ai toujours été d'abord dans les contenus jeunesse. Je suis pas quelqu'un qui a fait une carrière en télé ou dans les médias, par exemple, dans le variété ou dans des magazines plus adultes. J'ai toujours été en jeunesse, en contenu jeunesse. Donc, ça fait au-dessus de 30 ans là, que je travaille dans les contenus jeunesse. C'est ce qui m'intéresse. J'ai une certaine expertise dans le ciblage aussi des contenus. On ne s'adresse pas à un enfant de 8 ans comme on s'adresse à quelqu'un qui en a 5 ni 15. Alors, ça, dans mon parcours, il y a quand même le fil conducteur de vouloir offrir aux enfants et aux ados des contenus qui soient soit inspirants ou instructifs ou les deux, et surtout qui soient faits pour les amuser aussi, en fait, pour pas les rebuter. Donc ça, c'est le fil conducteur. Dans mon cheminement, il y a aussi la création d'une émission qui a duré très longtemps, qui a duré 9-10 ans à RDI, qui s'appelait RDI Junior,
oui.
Et qui expliquait les manchettes du jour aux enfants il y a 20-quelques années, qui a duré longtemps, qui s'est peut-être un peu, qui a un peu changé au fil du temps, mais au début, les trois premières années, certainement, quand je l'ai créé et qu'on était le noyau d'origine, c'était vraiment les manchettes du téléjournal qu'on expliquait. Donc, il y a ça, hein, qui est quand même quelque chose que j'avais déjà en tête depuis longtemps. Tu sais, moi, je dis que je semble avoir une carrière basée sur une idée fixe. Mais c'est ça quand même, c'est d'informer les enfants parce que, tu sais, j'ai toujours un petit frisson quand les gens disent, c'est les citoyens de demain, c'est les citoyens d'aujourd'hui.
Ouais.
C'est pas les citoyens de demain, c'est les petits citoyens d'aujourd'hui, mais ils sont autant citoyens que n'importe qui d'autre. Quand c'était la pandémie, on leur a demandé de faire exactement les mêmes gestes et les mêmes sacrifices et même plus que les citoyens adultes. On leur demandait de porter un masque, de se laver les mains. Ils avaient beaucoup de... Donc, on s'est adressé à eux comme citoyens. Et on le fait souvent. Alors, je pense que c'est important qu'ils soient informés, considérés, mis en valeur et aussi qu'ils se sentent compétents par rapport à ce qui les entoure, au monde qui les entoure, à ce qu'ils entendent, qu'ils ne soient pas toujours ceux à qui on n'explique rien et qui ne peuvent pas participer à la conversation.
Vous l'aviez fait, vous l'avez mentionné, vous avez, RD Junior, il y avait déjà cet enjeu-là, notamment de vulgarisation de l'information.
Oui.
Vous disiez tout à l'heure, on ne s'adresse pas à un enfant de 8 ans ou de 12 ans comme on s'adresse à un enfant de 5 ans. Comment est-ce qu'on fait d'abord pour cibler? Parce que on peut dire, on a peut-être une idée quand on est adolescent, par exemple, puis même là, vous et moi, l'adolescence est quand même il y a quelques années, certainement. Comment est-ce qu'on fait pour dire, ce ton-là, cette façon de raconter les choses-là, c'est ça qu'il nous faut? Est-ce qu'on fait des essais avec des groupes? Comment on fonctionne?
Il y a l'expérience là qui c'est sûr qui nous avantage. Moi, ça fait longtemps là, que je travaille puis que je patauge dans ce milieu-là et que je m'intéresse beaucoup à ce que les enfants regardent, à ce que les enfants consomment comme produits culturels, comme jeux, même jeux vidéo, ou tu sais, carrément des choses qui m'intéressent pas, mais qui les intéressent beaucoup. Alors, c'est en s'y intéressant, c'est en parlant avec eux. Et oui, c'est sûr que c'est en allant les voir et en testant des choses auprès d'eux. En même temps, si on demande à un enfant, je sais pas moi, de 10 ans, de quoi t'aimerais qu'on parle, peut-être qu'il nommera pas nécessairement l'actualité et la guerre en Ukraine.
Mm-hmm. Oui.
Mais ça veut pas dire que ça l'intéresse pas si ça lui est pas présenté d'une façon adéquate. Alors, c'est aussi en connaissant leur niveau de maturité émotive, leur niveau aussi de littératie. Un enfant de 10 ans, ça, c'est plus de mots qu'un enfant de 7 ans, mais moins qu'un ado. L'apprentissage, la lecture, l'aisance avec la lecture, tout ça, là, je dis la lecture parce que je parle des arts de l'info, mais ça peut être aussi des contenus autres, là, l'aisance avec le vocabulaire, les concepts plus compliqués. Il faut vraiment s'attarder à les écouter, à les regarder vivre, à les consulter. Ils aiment beaucoup être consultés.
Quand on parle, vous avez mentionné la guerre en Ukraine, puis malheureusement, évidemment, c'est pas la première fois qu'il y a une guerre qui occupe les nouvelles. Là, en plus, on a ce qui se passe à Gaza. Comment est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on choisit nos mots? Parce que même comme journaliste pour adultes, en guillemets, il y a une sélection qui est faite, il y a un choix de mots, il y a un choix de visuel. Comment est-ce qu'on fait pour dire aux enfants, on ne veut pas leur montrer toute l'horreur de ces choses-là, mais en même temps, il faut comprendre que c'est quelque chose de difficile, puis de c'est de la violence, puis c'est de la destruction, puis tout ça. Donc, Encore une fois, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre-là? Est-ce que c'est difficile ces temps-ci, par exemple, d'aller sélectionner le bon type de contenu pour parler de ces enjeux-là?
Tous ces sujets-là qui sont difficiles, qui ont un potentiel anxiogène, il faut vraiment se poser beaucoup de questions et il faut y aller vraiment avec beaucoup de délicatesse. En même temps, certaines personnes diraient, ben moi, je trouve que c'est des enfants, faut absolument les tenir à l'écart de ça, etc. C'est un point de vue qui se vaut. Ce n'est pas vraiment le mien, vous l'aurez deviné, mais les enfants entendent des choses dans la cour de récréation, dans l'auto de papa-maman quand la radio est ouverte. À la télé, ils passent devant la télé, on voit un petit enfant dans une guerre, on ne sait pas c'est qui. On entend les parents à table ou à un souper de famille parler de... Alors, ils les entendent. Ils sont beaucoup, beaucoup sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez qu'on voit sur YouTube? Ils cherchent quelque chose, ils tombent sur une autre affaire, ils finissent leur vidéo, il y a une vidéo, tu sais, en bon français, random, qui arrive et puis qui nous envoie quelque chose qu'on n'est pas prêt à recevoir. Alors, pour ma part, je pense qu'il faut avoir confiance en leur intelligence. On n'est pas obligé d'être graphique. On n'est pas obligé absolument là, de dire comment les gens sont morts ou... mais comme par exemple dans le cas de l'Ukraine, ben on peut leur expliquer d'abord la base. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se chicanent? T'sais, pourquoi il y a la guerre? Ensuite de ça, ben c'est qui les personnages dont on entend toujours parler? Zelensky, Poutine. Bon, c'est qui ces deux personnages-là? Et ben l'Ukraine, c'est quoi ce pays-là? Il est où? Qu'est-ce qu'il y a en Ukraine de particulier? Bon. On peut faire un survol de tout ça qui les met aussi dans une disposition de, ben là, ils connaissent les bases. Ensuite de ça, ben il y a des bombardements, il y a une guerre, il y a des blessés, il y a des morts, il y a des gens qui s'exilent. Moi, je pense qu'on peut très bien en parler en ayant toujours beaucoup de bienveillance et beaucoup le souci de rendre l'enfant compétent et non pas anxieux. Mm-hmm. Si, après avoir écrit mon texte, je lis puis je me dis, ah non, ça, là, ça va, ça sert à rien de dire ça, là, qu'une bombe a éclaté puis que sur une garderie, puis tu sais, c'est-tu important? Tu sais, il y a des... Puis, faut toujours aussi, tu sais, dans notre connaissance des cibles, ben un enfant de 8-12 ans, son univers, c'est beaucoup son univers proche. Même s'il a tendance quand même, avec les cohortes, à s'élargir, à être plus mondial, je dirais, mais il y a quand même ma famille, mes amis, ma cour d'école, mon quartier. Oui. Ça, c'est mon univers à cet âge-là. Alors, est-ce que ça peut m'arriver? Il y a toujours cette question-là aussi, à laquelle on doit essayer de répondre plus ou moins subtilement, mais tu sais, un tremblement de terre terrible à tel endroit, est-ce que ça va m'arriver? Est-ce qu'on peut nous perdre notre maison? Est-ce qu'on peut, tu sais, alors, sans mentir, mais on peut dire, ben, c'est des choses qui arrivent très, très rarement dans notre pays, ou c'est des... Bon, tu sais, faut essayer de les rassurer. Mais nous, il n'y a aucun sujet dont on ne parle pas. Absolument aucun. Quand il est arrivé la tragédie de l'autobus qui a foncé dans une garderie à Laval, on a expliqué les choses aux enfants, mais avec des faits. Voici ce qui s'est passé. On n'a pas spéculé sur la santé mentale de un, sur... Voici ce qu'on sait en ce moment. Puis on va te tenir au courant. Puis là, voici ce qu'on sait maintenant. Donc, pas à pas, les enfants l'apprécient. Et en même temps, nous, on a le loisir et la chance de pouvoir choisir les images qu'on met, de pouvoir mettre quelque chose de plus réconfortant que traumatisant. Donc, il y a ça aussi. Et de faire voir à travers ça à l'enfant, parfois, comment il peut agir, lui. Maintenant qu'il sait tout ça, par exemple, la tragédie de la garderie, tu sais, mais qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu pourrais écrire une lettre. par exemple, à la garderie. Tu pourrais faire un dessin, demander à maman de le mettre sur Facebook ou sur un réseau social pour, en guise de solidarité. On essaie de redonner un peu de pouvoir à l'enfant parce que quand t'es petit, t'as l'impression que t'as un pouvoir sur rien.
Mm-hmm. Donc, c'est une question aussi d'éducation citoyenne en un sens.
Là. Absolument, absolument.
Parlez-nous un peu de votre routine, parce que bon, il y a un horaire, j'imagine qu'il y a des dates de tombée, tout ça, comme tous les médias qui se respectent. Est-ce qu'il y a une journée type, par exemple, aux Sciences de l'info?
Il y a des choses qui sont récurrentes, c'est-à-dire que nous, on travaille tous en télétravail, on n'a pas une place d'affaires qui est fixe, on a des gens, une journaliste à Gaspé, on en a un peu partout. Alors, ce qu'on fait, c'est que tous les matins, on se rencontre pour discuter de ce qui se passe dans l'équipe, de discuter de ce qui se passe dans l'actualité, de ce qu'on a vu. Et surtout des angles qu'on va prendre, parce que ça aussi, c'est important. Je vais vous donner un exemple très frais. Hier, très frais, sans jeu de mots, hier, le premier ministre est sorti, avant-hier, il est sorti avec des fruits en corridor. Bon. Puis là, on savait pas trop quoi faire, mais tu sais, il y avait des mimes, il y avait toutes sortes de choses qui sortaient, puis on se disait, c'est quand même l'actualité, puis c'est une façon aussi d'en parler, du projet Northvolt et tout ça. Alors, on a décidé de faire, sans se prendre au sérieux, puis les enfants le savent bien, c'est un peu avec un clin d'œil, mais coudonc, qu'est-ce qui est arrivé avec la pomme, l'orange et la banane?
Oui.
Alors, on a appelé au cabinet qui nous a dit que le chef de cabinet avait mangé la pomme, mais qu'on ne savait pas ce qui était passé avec la banane. Mais là, tu sais, on a dit aux enfants, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de gaspillage alimentaire. Bon, puis on a expliqué aussi le fond de l'affaire, pourquoi il avait fait ça, puis bon. Mais ça leur permet des fois un petit break, hein, de leur donner un petit break. C'est plus léger, c'est rigolo, mais en même temps, ils apprennent des choses. Ils apprennent le mot chef de cabinet, ils apprennent toutes sortes de choses quand même. Là.
Puis je vous dirais qu'il y a quand même au moins un grand enfant de 37 ans qui est allé voir l'article et qui se posait la question, parce que c'est aussi, bon, c'est rigolo, mais effectivement, ça permet, c'est très bien présenté, ça parle de Northvolt, ça parle des enjeux environnementaux, tout ça, donc c'est très bien amené. C'est un peu l'enjeu parce que, bon, nous, dans les médias, quand on est journaliste d'expérience, on connaît notre façon de fonctionner, on sait comment présenter les choses, mais on n'a pas ce réflexe-là de dire « on va parler aux jeunes ». Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, vous en faites partie, mais des gens dans la salle de nouvelles à Radio-Canada ou à la presse ou ailleurs vont pas nécessairement avoir le réflexe de dire « comment est-ce que je présente ça à un ado ?» Comment est-ce que je présente ça aux 18 à 55 ans qui vont me lire sur leur téléphone dans le métro, ou bon, peu importe. Et je trouve ça à la fois un beau défi, un défi peut-être complexe, en même temps, c'est vous qui le vivez là, tous les jours. En même temps, c'est ça, c'est le genre de choses que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas vraiment ça. Il y avait RD Junior, effectivement. Moi, j'ai connu ça là, les premières années.
Merci pour un jeûner.
Non, mais je veux dire, ça a commencé dans les années 80, les années 90.
Ça a fait bien plaisir.
Voilà. On est tous vieux et voilà.
On est tous le vieux de quelqu'un.
Exactement, tous sur le bord de la retraite. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, effectivement, quand j'ai commencé à voir ça apparaître dans Le Devoir, par exemple, je me disais, voyons, c'est vrai que ça manquait. Il y avait quelque chose qui n'était pas là. Moi, je disais la presse à l'époque, quand mon père recevait le journal. Bon, longtemps, moi, j'ai lu que les BD, puis après ça, j'allais faire autre chose. Mais c'est ça, probablement que ça m'aurait aidé à comprendre certains enjeux. J'y suis parvenu éventuellement quand même, mais c'est ça. Donc, il y avait le format peut-être déjà magazine, on peut penser au Débrouillard, tout ça, mais Débrouillard et autres, bon, là, toute une série maintenant, là, c'est mensuel. Donc, c'est pas le même rythme, c'est pas la même, c'est pas à ce point-là collé sur l'actualité, tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, d'ailleurs. Très intéressant comme initiative. J'ai peut-être une question un peu terre-à-terre, par contre, puis bon, pas trop le choix d'en parler, l'industrie étant ce qu'elle est. Est-ce qu'on reçoit des subventions? Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de publicité, parce que c'est pour les enfants, il n'y a pas d'abonnement, c'est du contenu gratuit, c'est payé par les coops de l'information, c'est payé par le gouvernement, comment ça fonctionne?
C'est subventionné de toutes sortes de façons, je dirais. Oui, les gouvernements participent, Patrimoine Canada, notamment, le secrétariat canadien aux relations, non, le secrétariat québécois aux relations canadiennes, le ministère de l'Éducation nous a aidés pour la section pédagogique. Donc, il y a ça. Il y a aussi des dons qui nous soutiennent, des partenaires aussi qui nous soutiennent, comme par exemple Desjardins, qui est vraiment un partenaire extraordinaire, qui nous a beaucoup aidés financièrement, sans pouvoir avoir une grande visibilité, bien entendu, sur la plateforme, mais qui croit en la jeunesse et qui investit dans l'éducation citoyenne. Alors, on va chercher comme ça des appuis. Tu sais, je m'en tirerai pas, là, c'est pas évident. Puis nous, on souhaite maintenir la plateforme gratuite, justement parce que la curiosité des enfants, elle n'a pas de statut social, hein? Et puis, on veut absolument encourager ça et créer aussi une relève de lecteurs d'informations d'ici. Ce qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup investi là-dedans, là, dans la cohorte des 20, des 18, 20, 30 ans, là. Et ça nous revient au visage. Alors, il faut quand même les habituer à avoir un réflexe, connaître les journalistes, etc. Alors, il y a ça fait partie aussi des raisons pourquoi on est dans le devoir, pourquoi on est dans l'Acadie Nouvelle, dans la Liberté au Manitoba. C'est parce qu'on veut donner l'occasion aux enfants de s'initier à l'information. Mais pour revenir à, tu sais, vous parliez de, ben, que c'est quand même un travail qui est inhabituel pour un journaliste de se demander comment je vais. Si je peux me permettre, je pense que de plus en plus, ça va devoir être des questions que se posent tous les journalistes. Comment je vais aborder la nouvelle? Sans tomber dans les réflexes, sans prendre les béquilles, on se rend compte, nous, qu'il y a beaucoup d'adultes qui lisent les As de l'info parce qu'ils comprennent pas du tout ce qui se passe. C'est quoi les enjeux en Israël? C'est quoi le conflit Hamas-Palestine, Israël, c'est quoi le. Et qui viennent prendre des informations et qui nous écrivent: Hey, merci, c'est la première fois de ma vie que je comprends. Puis c'est pas une question de se vanter, mais c'est une question de dire: ben, je pense que les médias prennent des fois des choses pour acquises et ne se posent pas la question comment je peux me renouveler, comment je peux aborder ce sujet-là de façon complètement différente et intéressante. Nous, on le fait parce que, bon, c'est par nécessité. Les enfants, il faut se poser la question, mais je pense que tout le monde va devoir se la poser de plus en plus.
Mais justement, la question, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, c'est le genre de dossier où malheureusement, dans un délai de production qui est très, très serré, les nouvelles quotidiennes, on n'aurait pas le temps de. Malheureusement, c'est ça, c'est qu'on essaie, on est toujours un peu en rattrapage. On ne peut pas dire au lecteur, voici 10 thèses de doctorat sur l'histoire de la Russie impériale, puis le soviétisme, après ça, l'éclatement de l'URSS, puis tout ça, ou voici, je ne sais pas combien justement de thèses ou de livres sur la situation au Proche-Orient. On pourrait lire pendant plusieurs années sans nécessairement comprendre au complet ce qui se passe là-bas. Donc, effectivement, la question d'aller rejoindre un public adulte aussi qui a peut-être pas vu, même s'il y a un texte explicatif à Radio-Canada ou dans la presse, il a été publié il y a 3 semaines. Ils vont pas refaire le texte explicatif parce que ça va trop vite, il y a trop de choses. Donc, effectivement, puis bon, comme je disais, moi-même, outre le fait que souvent, j'arrive pas à trouver les fameuses différences dans les dessins, mais de lire, justement, je suis intéressé de voir comment est-ce que c'est résumé pour des jeunes, mais aussi des gens qui ont, comme vous disiez, ont pas eu le temps de suivre le dossier ou comprennent pas exactement ce qui se passe. Ça peut être effectivement très utile.
Les élections américaines, là, puis on le sait, là, que c'est compliqué, le fonctionnement du système électoral et tout ça. On est en train de préparer des choses, puis on l'avait fait aux dernières élections américaines aussi, puis c'est incroyable, là, le nombre de personnes qui ont compris un peu mieux comment ça se passait, avec une vulgarisation très de base, mais c'est ça, là, tu sais.
Non, effectivement, comprendre les élections américaines, c'est du sport. C'est un sport sans cesse renouvelé. Vous avez une section, bon, pour les profs sur votre site web, parce que, bon, évidemment, il y a le fait de rejoindre les jeunes à la maison, mais aussi, bon, justement, aller voir les professeurs, aller dans les salles de classe. Est-ce qu'il y a une rétroaction positive? Est-ce que on vous dit que ça fonctionne bien, que les jeunes sont intéressés?
C'est vraiment extraordinaire, la réponse des enseignants. On a peut-être pas loin de 5000 enseignants qui sont inscrits à la plateforme et qui utilisent nos contenus. Les contenus sont faits par des enseignants qui connaissent les programmes du primaire et qui sont capables de relier des textes d'actualité avec des objectifs en français, en maths. Avec les élections américaines, on peut faire pas mal de maths, hein? Alors, avec, je sais pas, on parle d'un sondage, les pourcentages, on parle d'un pays, on peut faire de la géo, on peut faire toutes sortes d'affaires. Le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise qui est en implantation et qui va être vraiment... dans le programme à partir de septembre, ben c'est sûr qu'on touche beaucoup, beaucoup de choses. Nous, on fait aussi de la philo, on fait des ateliers de philo. Donc, les profs trouvent des manières très dynamiques qui sont clés en main aussi. Tout est fait, ils ont juste à faire l'activité. Puis ils aiment ça. On a fait un grand tour là, des colloques, congrès de profs, etc. Puis à chaque fois, ils disent « Ah, mais vous étiez où? Je suis tellement contente de vous connaître. » Puis on voit que c'est 500, puis on les voit s'abonner. Puis donc, il y a une volonté aussi des enseignants de parler de l'actualité. Mais quand tu connais pas toi-même tout ça, tu as besoin d'être accompagné. Fait que c'est un très, très grand succès pour nous. La partie prof, puis on a beaucoup d'enseignants de partout là, qui collaborent et puis qui créent des activités. Ça, c'est indéniable. Et puis, on voit qu'il y a des classes complètes parfois qui sont branchées et qui répondent à des questions sur le site. Là. Ça arrive tous les jours.
Ben écoutez, vous semblez avoir déjà un public établi. Ça semble bien solide comme organisation, tout ça, comme projet. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années pour les Arts de l'Info?
Bien, notre défi, c'est toujours de se renouveler, de maintenir aussi notre financement. Pour moi, c'est quand même beaucoup de mon travail. Le défi aussi, c'est encore et toujours, puis je suis certaine que vous comprenez ça, la découvrabilité. On met beaucoup d'efforts, on met beaucoup de cœur à faire des choses. On voudrait que le plus de gens possible les voient, mais c'est dans une mer de contenu. Alors, la découvrabilité, ça fait partie des défis. Sinon, ce qui s'en vient, c'est toujours d'améliorer le site pour que les enfants trouvent des choses de plus en plus ludiques. Dans nos articles, on peut mettre des quiz, on peut mettre toutes sortes d'affaires qui font que la lecture est plus intéressante. Il y a le module audio que les enfants peuvent utiliser aussi quand ils ont un petit peu plus de difficultés ou qui sont en francisation. Alors, on veut pousser un peu ça, cette espèce d'expérience utilisateur. Et bien, c'est sûr qu'on a toutes sortes de projets parce qu'on aimerait bien pouvoir avoir des correspondants ailleurs et pouvoir avoir des nouvelles de l'Afrique, mais sur place, tu sais. Alors ça, on y pense, on y travaille, puis on veut ouvrir les frontières, là.
Ève Tessier-Bouchard, éditrice des Arts de l'Info, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait bien plaisir.
Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci aussi d'être là. C'est le premier épisode de 2024, après une longue pause hivernale. Très content de vous retrouver. Normalement, si tout va bien cette année, on va atteindre le 100e épisode. C'est déjà le 93e, donc je croise les doigts, j'ai bon espoir. Si vous voulez réécouter les autres épisodes, tout ça, c'est disponible sur pieuvre.ca. On est également sur Spotify et Apple Podcast. Et en terminant, je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. C'est gratuit. Chaque samedi, vous recevez tous les contenus publiés durant la semaine, y compris les épisodes de balado. Et pour vous abonner, c'est très, très simple. Vous allez sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes. Et moi, je vous dis merci et à bientôt.